Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Cote Immo, votre rendez-vous quotidien sur les thématiques immobilières, alors évidemment marché de l'immobilier, économie, donc de la fabrique de la ville ou encore urbanisme et architecture, et c'est justement ce qui nous anime le vendredi. On réfléchit ensemble, on décrypte ensemble tous ces sujets en lien avec la ville, l'économie de la ville, l'architecture, l'aménagement du territoire. C'est tous les vendredis dans ImmoCity donc, et avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain.
Comment ça va Nicolas?
Bah très bien, et vous?
Eh bien écoutez, on prépare le week-end. En tout cas, il est certain que pour mieux profiter de ce week-end du temps des loisirs, il est nécessaire par exemple de ne pas subir l'espace dans lequel nous vivons, Nicolas.
Bien sûr.
Dieu sait qu'on sait de quoi on parle quand on a passé deux années difficiles avec un confinement à répétition. Alors comment faire évoluer cet espace concomitamment avec nos mœurs, hein, les aspects anthropologiques de notre société, de notre urbanité, si je peux dire les choses comme ça. Juste au sommaire, justement, je propose que l'on puisse réfléchir, voilà, c'est l'objet du vendredi de notre numéro de la Cote Immo, à comment la ville se réinvente, puis d'aborder ensuite, si vous voulez bien, le réenchantement des friches foncières. Et oui, un programme qui ne tient pas et qui convoque l'imaginaire.
Exactement. Donc nous aurons le plaisir de recevoir dans un premier temps sur le plateau de la Cote Immo Sophie Berthelier, architecte fondatrice du cabinet SBBT Architecture. Nous lui demanderons comment la ville se réinvente, et ensuite dans l'Experimo, nous enchaînerons avec un sujet autour du réenchantement des friches industrielles, et nous aurons pour cela le plaisir de recevoir Marc Kaczynski, le président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. On se retrouve tout de suite dans ImmoCity.
La ville, et oui, la ville, cette jungle urbaine, enfin, regarde, cette jungle, si vous conduisez une voiture, alors là, vous êtes vraiment dans la jungle,
qui transforme... Une jungle immobile, mais dans
une
jungle.
Qui transforme de jolis provinciaux, finalement, en bêtes féroces dans les, sur le périph' ou sur les routes, non. Mais la jungle urbaine, c'est quelque chose qui est un amas de gens, bien évidemment, de bâtis et parfois difformes, effectivement. On doit aussi exercer le regard sur la cité. Et on va dire, pour paraphraser un célèbre philosophe, le bien peut aussi faire partie du beau. Alors, les gens, un défi de tous les temps, hein, avec une ville qui se transforme, pour mieux vivre avec les uns et les autres, les uns à côté des autres, comment se réinvente-t-elle? C'est la réponse avec notre invitée, que je connais bien, j'ai eu le plaisir de la voir sur un plateau, Sophie Berthelier, bonjour.
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 Alors, vous êtes fondatrice, effectivement, du cabinet SBBT Architecture. Et permettez-moi aussi d'y ajouter, si vous voulez bien, vous êtes secrétaire général de l'Académie d'architecture. Et vous avez été également lauréat du prix Femme Architecte en 2017. Voilà. Il y a 9000 ans, l'une des premières villes de notre histoire a vu le jour dans, dans l'actuelle Turquie, exactement à Katalyuk.
Je vais essayer bien de prononcer.
Avec les, voilà. Alors, n'est-il pas légitime de se demander si on peut encore... finalement, ou est-ce que c'est pas une phrase qui est destinée à nous rassurer? Est-ce qu'on peut vraiment réinventer la ville, Sophie Berthelier?
Alors écoutez, déjà le mot réinventer pour moi n'est pas du tout adapté à l'évolution de la ville.
Comme ça, c'est clair.
Donc je démarre assez... assez
ça, c'est clair.
Voilà. Problématique.
On réinvente pas la ville.
Non, on réinvente pas la ville. La ville se construit et la ville se fabrique en fonction de l'évolution des êtres humains, en fonction de nos modes de vie qui se transforment, en fonction d'un tas même de réflexions philosophiques qui nous imprègnent. Vous voyez, par exemple, sur l'environnement, sur la réflexion sur notre planète, chacun d'entre nous a ce désir aujourd'hui de changer les choses. Donc la ville, elle doit se fabriquer par rapport à tous ces facteurs-là, qui sont plutôt des facteurs, je dirais, moraux, à mon avis, sociologiques. Et les architectes doivent construire la ville en fonction de ça.
Il y a quand même une question qui se pose. Alors effectivement, le terme réinventer la ville n'est pas forcément le plus adapté, mais on est quand même actuellement dans un contexte où on parle d'accélération, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la façon de travailler, de connectivité, de connexion. On est connecté avec son téléphone, avec son ordinateur ou autre. Est-ce que le fait d'avoir une vie qui s'accélère dans les grandes métropoles doit quand même faire en sorte qu'on se pose la question de transformer plus vite la ville qu'on aurait pu le faire auparavant?
Alors, ça, c'est très lié aussi à la
technologie. Et j'ajouterais, pardon, excusez-moi, une accélération d'un point de vue écologique aussi à changer nos modes de transport, nos modes de consommation ou autres.
Alors, c'est vrai que d'un point de vue, je dirais, sociologique, avec l'arrivée de la technologie, des portables, etc., l'évolution de la société est plus rapide. Ceci dit, la ville, elle a toujours évolué en fonction des transports en commun. Regardez Haussmann,
révolutionné en 17 années de chantier, 30 000 immeubles abattus. Formidable, hein, comme geste urbanistique.
Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut, à mon avis, pas continuer à faire la même chose.
C'est vrai. Oui. En son temps, était précurseur.
Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en son temps, l'idée, c'était aussi très liée au transport qui évoluait à ce moment-là. Donc la ville, elle est forcément évolutive, elle évolue par rapport à tous ces facteurs-là qu'on ne peut pas omettre.
Donc le facteur principal d'évolution de la ville, ce que vous dites, c'est le transport en commun ou le transport. Ce n'est pas forcément la façon dont on travaille ou les aspirations qu'on peut avoir vis-à-vis de son logement.
Si, c'est un tout. Enfin, je veux dire, la fabrique de la ville, elle doit se faire aussi bien par rapport au plein qu'on construit qu'au vide qui constitue finalement l'espace urbain ou l'espace entre les bâtiments. Donc c'est une vision globale qu'un architecte doit avoir sur tous ces sujets-là et travailler pour l'être humain. Alors c'est facile à dire.
Bien sûr. Surtout qu'on est sur un immeuble ou un groupe d'immeubles, et on n'est pas l'architecte refait pas toute la ville. On n'est pas effectivement à autant de
monde. Alors il y a des urbanistes.
On demande beaucoup là, aux architectes.
Il y a des architectes urbanistes. Un architecte a la vocation aussi de fabriquer la ville par
petits bouts ou à sa manière en tout cas.
Oui. Oui, ou même de manière globale avec des urbanistes, des équipes, avec des paysagistes. Un architecte n'est jamais seul. Il y a toujours une équipe qui est derrière et avec lui. Pour fabriquer tout ça.
Alors la question du mieux vivre ensemble est un sujet de société et parfois on prend à partie l'architecte ou le geste de l'architecture pour créer cette cohésion sociale. Je voudrais citer l'un de vos collègues connu pour sa grande gueule, pour sa faconde, c'est Rudy Ricciotti, vous l'avez compris, qui dit la chose suivante. Mon sentiment, c'est que la ville européenne part en live, part en vrille, hein, selon Rudy. Le problème de fond en France n'est pas politique. Il dit la chose suivante, il est lié à la tradition centralisatrice qui est devenue dysfonctionnelle, plus prédatrice que structurante. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Moi, je pense qu'il a raison dans la mesure où on est lié à trop de normes, c'est-à-dire...
L'inflation normative.
L'inflation normative qui génère en fait une médiocrité de la ville. Une médiocrité parce que on est obligé de suivre ces règles. Je citerai un exemple tout simple. Dans les villes moyennes, vous avez un PLU, donc c'est un plan d'urbanisme qui vous dicte finalement comment vous allez construire. Vous allez faire un socle au rez-de-chaussée. Ensuite, vous allez faire du R+1, au R+5. Et ensuite, on vous demande un attique, c'est-à-dire un retrait ou alors une pente de toiture qui s'apparente à une toiture du 19e siècle. Et en fait, toute la ville doit être constituée de cette façon-là. Je pense que ce n'est pas la solution. On a oublié la beauté de la ville de Rome avec ses madones dans les angles de rue. On a oublié notre histoire de la ville qui s'est construite avec des ponctuations, l'ensoleillement à travers une ruelle. Et ça, on l'a oublié et on va construire de manière trop homogène, trop monotone.
On veut quoi ? On veut uniformiser, justement, garder, si je reprends l'exemple d'Haussmann, garder ce style, en tout cas, dans une ville parisienne et ne pas accepter d'en sortir alors qu'on a évolué.
Qui était d'ailleurs un style très novateur. Et je profite justement de ce que vous dites, Nicolas, pour préciser que le travaux d'Haussmann, c'est les travaux d'abord de Rambuteau, à qui on ne rend pas suffisamment hommage. Un urbanisme et un haut fonctionnaire bien avant Haussmann. Et c'est ce dessin-là architectural, effectivement, qui apaisait la ville. Parce que je vous rappelle que c'était de l'eau, de l'air et de l'espace. Hein, c'était Napoléon III qui avait fixé ce cadre-là. C'est précurseur de se dire ça. Quand on a fait 2 années de confinement et qu'on se dit on veut de la perspective, on veut de l'air et on veut de l'espace, c'était formidablement moderne.
Alors aujourd'hui, en tout cas à Paris, c'est pas forcément ce qu'on a le plus, de l'eau, de l'air et de l'espace.
Oui, la densité. Alors justement, pour compléter ce que dit Nicolas, l'architecte n'est pas parfaitement libre dans notre époque. Un maillon, finalement, de la chaîne. On voit qu'il y a, quelque part, une représentation de l'architecte qui a perdu peut-être de son côté un peu sacralisateur ou centralisateur. Est-ce qu'il y a parfois, Sophie Berthelier, un conflit entre l'utopie architecturale, le geste que vous voulez, parce que vous avez cette pensée, et finalement, pour être plus pragmatique, la réalité de la commande publique?
Alors bon, déjà,
vaste sujet.
Vaste sujet, effectivement. Déjà, moi, je vais pas vous faire de geste architectural. C'est pas dans mon ADN, on va dire. Et l'utopie, il faut s'en méfier. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut se regrouper, avoir plus d'échanges les uns avec les autres, avec tous les partenaires de l'immobilier, les politiques, les architectes, les urbanistes, que chacun puisse s'entendre et s'écouter pour fabriquer la ville, en fait.
Mais je reviens sur ma question, effectivement, vous mentionnez tout à l'heure que dans le PLU, tout est tellement normé qu'on ne peut plus être créatif ou autre. Est-ce que ces normes prennent leur source dans une réalité écologique et d'évolution de la société ou plutôt dans une volonté d'uniformiser ou de rester en lien avec la beauté de la ville telle qu'elle est conçue d'une certaine manière?
Alors, à la fois, je pense que ça doit rassurer, en fait, les politiques, parce qu'en fait, la ville se fait et se décide. Enfin, ce sont les hommes et les femmes politiques qui décident de la fabrication de leur ville. Donc, je pense que ça doit les rassurer, quelque part, d'avoir des normes comme ça, où finalement, tout le monde va rentrer dans le moule et il n'y aura pas d'échange possible. Bon, je pense qu'il faut certaines normes, mais autant que ça, c'est beaucoup trop pour intégrer, je sais pas, des envies d'une ville un peu plus ouverte et un peu plus qualitative.
Alors justement, pendant la dernière campagne présidentielle, on a beaucoup entendu parler du logement, dont le lien était directement fait en tant que problème écologique. Moi, j'aimerais entendre votre avis en tant qu'architecte. Comment est-ce que le logement peut être une solution justement et l'urbanisme peut être une solution dans la période qu'on traverse où il faut effectivement changer nos modes de vie mais continuer quand même à vivre en essayant d'en garder un maximum de ce qu'on avait hier. Est-ce que le logement, la transformation du logement, peut permettre de régler un certain nombre de problèmes? On parle souvent de rénovation énergétique, mais il n'y a pas que ça. Il y a de l'accès à l'extérieur, il y a concevoir des endroits plus frais ou autre. Ça, l'architecte et l'urbaniste a un rôle à jouer là-dedans?
Oui, bien sûr. Et puis aussi, dans la politique de la ville, il faut des circuits courts. Il faut maintenant repenser les programmations, les usages de manière plus proxime, on va dire.
D'accord, oui. Voire même les mobilités dans la ville.
Absolument. Donc, et ça aussi, c'est une part importante dans le respect de l'environnement ou dans le coût carbone qu'il faut absolument diminuer. Donc ça, c'est un rôle aussi de programmation qui est très important. Et le logement, en rénovation énergétique, oui, il faut réhabiliter, il faut éviter de démolir et réutiliser.
Donc on ne fait pas comme le baron Haussmann, pour le coup.
Non.
Alors justement, ça nous permet de passer à notre dernière question avec vous, Sophie Berthelier. La ville qui se reconstruit sur elle-même, on fait face à un choc démographique sans précédent, mais ça ne touche pas que la France, ça touche l'Europe, bien évidemment. Vous avez dit qu'il faut éviter, quelque part, de déconstruire. C'est, je reprends vos propos. Comment on fait? Quelle est la solution? Quelle vision vous avez justement de l'accueil de cette démographie pléthorique, des nouvelles cellules familiales, des cellules monoparentales qui a fait exploser la demande de logement?
Alors,
en fait, concrètement, comment on fait pour loger tout le monde sous cet auspice?
Ben bon, en tant qu'architecte, je pense qu'il faut travailler sur le territoire. Il faut absolument que les villes moyennes retrouvent leur aura d'avant, qu'elles se restructurent pour pouvoir accueillir des gens.
Pour vous, le pouvoir, il est régional, donc, du coup cette tentation, encore une fois, on le disait hier avec Henri Buzicazo, cette tentation jacobine centralisatrice, est-ce que vous pensez que le pouvoir des établissements publics locaux, par exemple, des collectivités comme les régions, les départements, devraient avoir la main 100% sur l'aménagement de leur territoire?
Ça, c'est d'ordre trop politique pour que je réponde. Mais simplement, je pense qu'il faut travailler sur le territoire. Ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'il n'y ait pas de politique du territoire et de la qualité aussi. Moi, je milite beaucoup pour la qualité architecturale et j'ai lancé un groupe de réflexion sur la haute qualité architecturale parce que, à mon avis, ça aussi, c'est l'élément hyper important. Quand vous disiez le logement pour la densité, etc., les gens, s'ils veulent aller vers du logement individuel, c'est parce que, à mon avis, ils n'ont pas la qualité dans leur logement dans les
collectif,
villes.
Oui.
Ils n'ont ni la qualité, ni les espaces verts. Bon, il faut les renforcer, il faut raisonner à l'échelle de l'être humain dans la ville.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sophie Berthelier, d'être passée sur le plateau de la Côte Immo. Je rappelle que vous êtes architecte fondatrice du cabinet SBBT Architecture. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'Expert Immo. De retour sur le plateau de la Côte Immo, nous sommes à présent dans l'Expert Immo et nous allons nous poser la question du réenchantement des friches, et notamment des friches industrielles. Ces terrains précédemment exploités, abandonnés par l'homme et colonisés par une végétation spontanée. On a d'ailleurs coutume de dire que la nature finit toujours par reprendre ses droits et c'est particulièrement vrai en ce qui concerne les friches. Alors, comment se réapproprier ces no man's land? Nous allons accueillir tout de suite notre invité Marc Kaczynski. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau de la Côte Immo. Vous êtes président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, plus connu sous le nom de LIFTI. On va se poser la question du réenchantement des friches. Juste avant, peut-être un petit mot sur ce fameux LIFTI. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer ce think tank et comment est-ce que vous en êtes arrivé au sujet du réenchantement des friches industrielles ?
Il a été pratiquement au début de l'initiative de LIFTI et peut-être même avant, compte tenu de ma trajectoire professionnelle. J'ai notamment au ministère de l'Équipement, feu le ministère de l'Équipement, dirigé l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais.
D'accord.
Pendant une vingtaine d'années, dont l'objet, la création, c'était de s'occuper des friches industrielles. Alors vous parlez de réenchantement au début, la question c'était le réenchantement économique. Beaucoup de disparitions d'emplois, d'entreprises, et les élus de ces régions, dites de vieille industrie, ils attendaient d'abord qu'on puisse réinstaller des activités, recréer des emplois.
Réutilisation finalement du lieu,
voilà,
et du bâtiment.
Voilà, du lieu, etc. Et la réalité a fait qu'au lieu de réutiliser les friches là où elles étaient, parce qu'elles étaient le long des canaux, enserrées par des cités ouvrières, au lieu d'être à la sortie d'une autoroute, branchées sur un échangeur, etc., finalement, elles ont été abandonnées à elles-mêmes. Et l'établissement que j'ai dirigé avait comme mission principale de les remettre en état pour un usage futur.
Alors, le sujet est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, on recense 7200 sites de friches qui sont recensés par l'application Cartofriche. Ce qui montre qu'il y a quand même pas mal de boulot aujourd'hui, puisque Cartofriche est alimentée régulièrement et ne cesse de s'étoffer, mais on est actuellement face à une politique qu'on appelle ZAN, de zéro artificialisation nette des sols. On ne peut plus faire sortir de nouveaux... on ne peut plus artificialiser de nouveaux sols. Donc là, d'un coup d'un seul, se dire retourner sur des sols déjà artificialisés, existants, qu'il faut rénover ou réhabiliter, ça fait complètement sens.
Tout à fait. Alors, le premier travail, vous avez cité les 7200 sites, c'est de savoir combien il y en a.
D'accord, parce que ce n'est pas toujours...
C'est-à-dire que Cartofriche, auquel LIFTI a un petit peu contribué à la création en animant un groupe, au sein du groupe de travail mis en place par Emmanuel Vargon, un groupe sur les inventaires de friches, a eu comme conséquence effectivement que ce sujet avait été abandonné depuis des décennies et qu'il fallait se remettre à identifier ces friches. Et pas seulement les friches industrielles, ce qui est essentiellement le contenu de Cartofriche, mais toutes les nouvelles, les autres, celles qui sont plutôt commerciales, plutôt équipements publics, plutôt hospitalières, etc., etc. Et là, ça change la géographie et ça change... La géographie régionale aussi.
D'accord.
Ce n'est pas seulement le Nord ou la Lorraine, c'est toute la France.
Toute la France est concernée par le sujet des friches aujourd'hui.
Voilà, aujourd'hui, et ça en fait une sorte de gisement d'opportunités par rapport à ce que vous dites, cette orientation portée par l'État de réduire la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de se reconcentrer sur l'espace urbain. Et quand vous vous reconcentrez sur l'espace urbain, que vous regardez ce qui est utilisable, vous retombez effectivement sur les friches comme objet, comme gisement principal sur lequel vous allez pouvoir, alors quand je dis vous, c'est les acteurs à la fois privés, publics, qui sont concernées. Donc ça implique les collectivités territoriales pour que cette stratégie soit intégrée dans leur stratégie foncière territoriale et leurs outils, etc. Et aussi les porteurs de projets.
Et alors, privés. Ce sera une dernière question avant de passer la parole à Sylvain. Qu'est-ce qu'on fait dans une friche, concrètement ? En quoi on la transforme ? Quel modèle économique
Un modèle par friche. Non, j'exagère un petit peu, mais il y a 3-4 figures. On est dans le marché, on n'est pas dans le marché, on est dans la zone grise.
D'accord. Le marché, c'est là où ça se vend globalement.
Alors,
c'est ça ?
Le marché, c'est là où vous pouvez sortir des mètres carrés de surface plancher compatible avec l'offre, avec la demande plutôt, la demande exprimée sur le territoire, en ayant intégré tout le processus dit du calcul à rebours des promoteurs. Et en ayant du coup une charge foncière initiale qui permet d'absorber les coûts de remise en état de site.
Je suis d'accord.
Un peu technique, mais c'est pour montrer que quand ces conditions-là sont réunies, la plaine Saint-Denis, vous réalisez des belles opérations, même sur des sites très pollués.
Ah oui.
Voilà. Quand vous êtes dans certaines franges du Nord-Pas-de-Calais ou de la Lorraine.
Où il y a moins de demandes,
mécaniquement. Où il y a moins de demandes, il n'y a pas de demandes. À ce moment-là, s'il n'y a pas une intervention publique, soit un opérateur comme un EPF ou des financements pour traiter le site et le traiter en attente, vous n'arrivez pas à remettre ces friches sur le marché immobilier. Mais c'est une autre stratégie qu'il faut porter, du coup, sur ces friches. Et dans la zone grise, c'est les friches qui ont été concernées, notamment par le plan de relance. C'est celles pour lesquelles il y avait un projet, une sortie possible, mais un handicap dans les coûts de remise en état de site. Et donc, aider à passer la marche du handicap, ça peut être du désamiantage, de la dépollution, de la déconstruction, des contraintes de sol, etc. Et là, vous pouvez effectivement retrouver une opération,
viable économiquement.
Viable économiquement. Voilà, il y a donc trois volets dans le modèle économique.
Alors justement, c'est bien de cela dont on doit parler. La France fait face, juste pour qu'on prenne un petit peu de hauteur par rapport à l'aménagement du territoire, la France fait face à une explosion démographique continue, avec une explosion, et là on parle d'anthropologie ou même de sociologie urbaine, des cellules monoparentales, une demande de logement qui a été multipliée par 3 dans les 40 dernières années. Volonté d'espace, volonté de perspective, volonté d'espace commun aussi, beaucoup plus, à l'heure où on est dans un zéro artificialisation des sols. Donc clairement, on ne veut plus d'étalement urbain. Question, Marc Kaczynski, vous qui avez piloté un EPF, et donc du coup, connaissez bien les éléments, on va dire, matriciels de l'aménagement du territoire, n'y a-t-il pas là, ou est-ce que c'est un vœu pieux, une vraie alternative de réoccupation du sol, je dis bien de réoccupation ou de réappropriation du sol, multifonctionnel, multi-usage, pour des métropoles qui étaient parfois en décroissance, je fais allusion à certaines villes moyennes aujourd'hui qui ont retrouvé des couleurs démographiques à l'heure où les Français peut-être arrivent dans une apogée hyper-métropolitaine. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, et vous l'avez d'ailleurs abordée, c'est celle du modèle économique. À quel moment, soit la tentation, encore une fois, je le dis toujours, mais jacobine de l'État, à dire « je vais injecter pour revitaliser le territoire ». Et d'ailleurs, dans le plan Action Cœur de Ville, il y avait cette idée aussi de revitalisation des centres-bourgs et des villes moyennes. Et comment, enfin, vous percevez, j'allais dire, l'action collective, et donc, vous avez compris, l'action politique, à l'égard de ce que vous dites. Parce que moi, je pense que ce que vous faites est fondamental pour l'équilibre territorial de notre pays.
Écoutez, merci. Quelle responsabilité.
Parce que j'y vois une alternative. Vous comprenez, Marc, j'y vois une alternative formidable pour enfin donner avec dignité un logement aux personnes qui en ont besoin, mais aussi de rétablir peut-être la multicentralité voulue dans certains territoires qui permettra de décongestionner les métropoles aujourd'hui qui souffrent de cette fameuse jungle urbaine dont on parlait tout à l'heure.
Alors, le premier paradoxe, c'est qu'il peut y avoir des consommations foncières périphériques pour des territoires qui n'ont plus de croissance démographique. Ah bon. Ça, c'est le paradoxe.
D'accord.
Absolument.
Ça, c'est le paradoxe, hein.
C'est lié un peu à l'attractivité urbaine ou l'attractivité du modèle développé et qui fait que de la périurbanisation, il y en a eu, y compris dans la vallée de la Sambre, dans le nord, autour de Maubeuge.
Les gens voulaient quitter la ville.
Voilà. Et donc, je rejoins ce que j'ai entendu tout à l'heure, votre invité avant, c'est qu'il y a un vrai problème de modèle. Ensuite, si on l'appréhende par le quantitatif, c'est-à-dire croissance démographique, besoins nouveaux, pression, il faut, entre guillemets, reterritorialiser complètement le sujet. C'est-à-dire que... il y a effectivement des métropoles qui vont être en tension, de nouveaux territoires qui vont être en tension. Ben, vous le savez, hein, dans l'ouest de la France, le long des côtes, dans un certain nombre de territoires attractifs par rapport à des déplacements d'emploi, des déplacements de personnes qui veulent un autre cadre de vie, etc. Donc il y en a à la fois un aspect quantitatif, qualitatif, hein, et en même temps des pans du territoire qui vont se retrouver, j'allais dire, en zone un peu de déshérence. Et où cette question, j'allais dire, de la pression, ça sera un peu la question inverse. Comment fait-on pour redonner de la valeur aux fonciers, hein. Donc c'est une question d'aménagement du territoire dans lequel l'État a une vraie responsabilité. Et dans ces responsabilités, il y a le fait d'avoir une politique nationale et il y a le fait de faire confiance aux territoires, aux régions, aux intercommunales en particulier, pour adapter aux besoins et aux configurations particulières de chacun des territoires l'objectif partagé du zéro artificialisation nette. Pour moi, c'est un problème lié à la décentralisation. Lié à la décentralisation, ça veut dire aussi qu'il faut que les collectivités, elles aient des moyens propres en régie pour pouvoir instruire ces politiques, les porter, les définir, les suivre, les évaluer, les reformater.
Les réglementations et les normes successives en matière d'immobilier, c'est un frein aujourd'hui à la rénovation de certaines friches ?
Alors écoutez... je me demande dans quelle mesure c'est pas un marronnier, comme
d'accord,
on dit, pour ouais. partie. Parce que pour avoir monté des dossiers de réhabilitation de friches dans des conditions très difficiles, à partir du moment où il y a, j'allais dire, une envie de faire de tout l'ensemble des acteurs, les propriétaires, les entreprises, l'administration de l'État, les collectivités, ben on arrive à dépasser un certain nombre de problèmes réglementaires pour mettre en avant, j'allais dire, la logique de projet. C'est ça qui va sauver les choses. Et plus on a une logique de projet, plus le poids du réglementaire va diminuer et les choses, elles s'adapteront. Je pense qu'il faut vraiment avoir confiance dans cette envie de porter du projet et du projet partagé, public-privé.
C'est extrêmement clair et j'allais dire que si vous ne faites pas que réenchanter les friches, Marc, vous réenchantez aussi l'idée même et je trouve ça jubilatoire à entendre.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Marc Kazinski. Vous faites un peu de publicité. En passant, vous êtes président du laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes. Et c'est la fin de cette émission. C'est même la fin de cette troisième semaine de Côte Immo, Sylvain.
Eh oui, tout à fait. Merci, Nicolas. Une semaine haute en couleur, si je peux me dire ainsi, avec toutes les informations de la Côte Immo et des personnes exceptionnelles. On vous reverra d'ailleurs, Marc Kazinski, régulièrement sur nos plateaux. On va se retrouver lundi prochain. On parlera PropTech, bien sûr, comme tous les lundis dans la Côte Immo. En attendant, à toutes et à tous, je vous souhaite un excellent week-end à vous Nicolas et à vous Marc Kazinski.
Merci de m'avoir invité.
Merci de nous suivre.